Bonjour et bienvenue messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres avant de commencer, les agents Cititrain continuent à réclamer au gouvernement le paiement de leur décompte final. Ils ont manifesté cette semaine devant les installations de leur société, ne comprenant pas pourquoi, 4 mois après la fin du travail de la commission de liquidation, ils n'ont toujours pas eu de réponse à leurs revendications. Les coopératives d'épargne et de crédit venues de plusieurs provinces du pays se sont retrouvées mercredi et jeudi à Kinshasa. Elles ont discuté enjeux et opportunités de l'émergence de coopératives d'épargne et de crédit en RDC. Les coopératives ont fait des avancées, quand bien même il leur reste plusieurs défis à relever, avait souligné le gouverneur de la Banque centrale. C'était à l'occasion des premières journées des coopératives d'épargne et de crédit. Un programme national de l'éducation financière pour la République démocratique du Congo. Tous les partenaires ont validé jeudi sa feuille de route que présentait le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ce programme vise à canaliser tous les efforts fournis en vue d'une bonne information financière à livrer à la population congolaise. Voilà pour les titres que nous allons développer pour vous tout à l'heure. Et notre invité de la semaine s'appelle Bernardin Niema. Il est le président de la délégation syndicale des agents Cititrain. Monsieur Bernardin, bonjour et bienvenue à notre studio.
Bonjour Monsieur Daniel et merci de m'avoir accueilli.
Panorama économique, le dossier.
Le secteur des microfinances est en pleine évolution en République démocratique du Congo et connaît des avancées significatives, mais devant elles se dressent encore plusieurs défis à relever pour qu'elles arrivent effectivement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. C'est le message du gouverneur de la Banque centrale du Congo aux gestionnaires des coopératives d'épargne et de crédit réunis mercredi et jeudi à Kinshasa. Ils sont venus de plusieurs provinces de la République prendre part à la première édition des journées des coopératives d'épargne et de crédit, journée placée sous le thème « Émergence des COPEC en RDC, enjeux et opportunités ». Écoutez plutôt le gouverneur de la Banque centrale, Dio Gracias Mutombo, qui revient sur les quelques avancées enregistrées par les COPEC de la RDC.
La stabilité du cadre macroéconomique a eu des effets positifs dans la plupart des secteurs de la vie économique du pays. La microfinance complice. Cette situation est attestée notamment par l'amélioration des indicateurs gestionnaires. 1. Le nombre des institutions est passé de 142 en 2013 à 125 structures financières de proximité ce jour, dont les coopératives représentent 84% de l'ensemble d'acteurs. Ceci est le résultat du processus d'assainissement mené par votre institut de mission pour soutenir des institutions crédibles et viables afin de stabiliser le secteur. 2. Une progression des activités de 11,6% en 2014 contre 19,7% une année plus tôt. Le total bilatéral est passé de l'équivalent en francs congolais de dollars américains 228 millions en 2013 à 255 millions, dont les institutions mutualistes représentent près de 58%. 3. Un accroissement de l'encours de crédit de 15,9%, s'établissant à l'équivalent franc congolais de dollars américains 136 millions de dollars en fait, contre 117 millions une année plus tôt. La part des coopératives d'épargne et de crédit a été de 58,5%. Cependant, au regard du concours total à l'économie, celui du secteur microfinancier a contribué à hauteur de 6,4% en 2014 contre 6,2% une année plus tôt, enregistrant ici une légère hausse. 5. Une mobilisation de l'épargne dont le chiffre est passé de l'équivalent franc congolais de dollars 162 millions en 2013 à 173 millions en 2014, soit une augmentation de 6,5%.
Une autre activité menée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo cette semaine, c'est cette feuille de route présentée et validée par le partenaire. Il s'agissait de la feuille de route de l'élaboration du programme national de l'éducation financière pour la RDC. L'objectif poursuivi par ce programme est d'apporter la bonne information financière aux élèves déjà sur le banc de l'école, aux femmes et aux populations rurales. Le souci majeur au terme est de les amener à consommer les produits et services financiers. Je vous propose encore une fois de suivre le gouverneur de la Banque centrale du Congo.
Nous sommes venus pour présenter le programme national d'éducation financière qui vient d'être adopté par les membres qui font partie du comité de pilotage où il y a la Banque centrale, le ministère des Finances, l'éducation nationale, enseignement supérieur, professionnel, technique, ministère du genre. Il y a des institutions financières, notamment la CB, l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit, les institutions de microfinance, donc tous ces autres fournisseurs de services financiers font partie de ce comité de pilotage. Il y a en dessous du comité de pilotage des comités techniques qui sont disséminés suivant différents domaines, le domaine du crédit, de l'épargne, des négociations financières et de la gestion budgétaire. Vous savez, nous avons un taux de bancarisation parmi les plus faibles au monde, même en Afrique. Le système bancaire n'a que 2,5 millions comptes. Et si on prend en compte les comptes auprès des institutions financières, et là on a un taux qui a certes augmenté, mais qui reste aussi encore faible, de 18%. Mais lorsqu'on considère que les banques, on a un taux qui est inférieur à 5%, alors que la moyenne africaine est de 22%. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre ce programme pour augmenter ce taux de bancarisation. Donc nous avons attiré l'attention notamment de fournisseurs de services financiers que le moment est venu de saisir l'opportunité de la montée en puissance de la classe moyenne dans notre pays. Donc nous avons une classe moyenne lorsqu'on prend les critères d'une vie quotidienne avec 2 dollars américains par jour. Nous avons une classe moyenne de plus de 10 millions d'habitants, donc c'est une opportunité pour élever de manière efficace cette épargne intérieure et l'orienter vers le financement à long terme de l'innovation, de l'investissement. Et nous avons besoin de ce genre d'innovation. Donc le programme qui vient d'être adopté devra être mis en œuvre à partir de fin décembre de cette année où la première réunion du comité de pilotage va se tenir après plusieurs réunions de comité technique. Et la mise en application de ce programme va commencer à partir de 2016.
Et nous allons nous rendre à Goma dans la province du Nord Kivu où la Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo, FOPAC en sigle, attend la participation des paysans dans la gestion de ce secteur à la base. Ils ont à cet effet organisé une campagne sous le thème consultation des acteurs de la société civile et des autorités locales sur les mécanismes de participation de ces derniers à l'élaboration des projets de nomenclature et du budget entité territoriale décentralisée. Les participants à l'atelier estiment que sans cette participation, les paysans seront toujours victimes de plusieurs tracasseries, notamment par la perception des taxes. Un récit de Moïse Mutunga Lukube, rendu par Freddy Bikumbi.
Cette activité de la FOPAC a permis aux paysans et à la société civile d'épingler les problèmes qui freinent le développement socio-économique du paysan au Nord Kivu. Occasion également pour la société civile et les activistes de droits humains qui ont pris part à cette rencontre d'échange des Goma d'indiquer que l'État doit encourager ces secteurs, notamment en réduisant les taxes auxquelles sont soumis les paysans. C'est la conviction notamment de Batiseze Katwani Joseph, un activiste de droits humains venu du grand nord de la province. De leur côté, certaines autorités locales reconnaissent les bien fondés de cette recommandation du participant. Ils promettent de réglementer ces secteurs pour encourager les paysans en milieu ruraux, tout comme ils sont d'accord pour que les paysans soient associés à l'élaboration du budget des entités territoriales et décentralisées. Ces autorités acceptent de faire leur ces principes. Goma, Freddy Bikumbi pour Echo d'économie.
Merci beaucoup Freddy Bikumbi, bon week-end à Goma et c'est le moment de retrouver dans ce studio notre invité pour le dernier dossier de la semaine et nous allons en parler de vive voix avec notre invité, je voulais annoncer, il s'appelle Bernardin Niema, il est le président de la délégation syndicale des agents de l'ex-City Trans, il faut l'appeler ainsi. Monsieur Freddy, nous vous avions suivi cette semaine, et puisqu'il s'agit du travail, il s'agit de l'emploi. C'est pour ça que nous vous avons invité dans cette émission pour essayer d'en parler, avoir le cœur net sur cette situation de City Train. Il était dit que City Train, depuis novembre 2014, juridiquement moralement n'existait plus comme société.
Oui, ça c'est vrai, tel que vous venez de le dire. Depuis le 21 novembre 2014, le Premier ministre a pris un décret, le décret 014/034,
oui.
Qui disait la liquidation, la dissolution et la liquidation de Cititrain. Ce décret a été signé conjointement avec le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. Et après le décret, le ministre des Transports, qui devrait suivre le décret, devrait mettre en place un comité de liquidation. Et il a pris un arrêté.
Et c'était fait.
C'était fait. Il a pris un arrêté qui a nommé le membre de la commission de liquidation.
La commission a fait son travail.
La commission était composée de 3 membres. Il y a M. Camille Mogo, qui fut l'ancien directeur technique de Cititrain. Il y a M. Leta, qui est un conseiller, donc le chargé de mission du ministre des Transports et Voies de Communication. Il y a aussi un des agents de Cititrain qui fut maintenancier, M. Safari, qui est chargé des questions techniques dans la dite commission. La commission a fait son travail, a rendu le rapport. Le rapport a été transmis au ministre, je crois que c'était au mois de mars.
De cette année. Oui.
Le rapport a été transmis à la fin du mois de mars. Et le ministre, à son tour, devrait faire une note technique qui devrait adresser à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour décider une fois pour toutes de la vente du patrimoine de Cititrain et du paiement des arriérés et les décomptes finaux des agents qui sont fin service. On a attendu, depuis que le rapport est allé, personne ne nous donne gain de cause.
Mais est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu? Le rapport est transmis au mois de mars, on est aujourd'hui au mois de juin.
Ce qui était difficile, c'était l'évaluation du patrimoine. C'est là où on disait que l'évaluation pouvait prendre 6 mois. Mais l'évaluation elle-même a eu que 45 jours. Donc,
les choses sont allées plus
les choses
vite,
sont allées vite parce que on voyait déjà comment est-ce que la misère s'agrandissait au rang des agents de Cititrain. Ça commence depuis 2012 que cette situation a commencé. Pendant que le ministre prendra une note qui disait qu'il va liquider Cititrain, c'était en 2012. 2012, 2013, 2014, la situation n'a commencé que pourrir. Et c'est pourquoi le comité n'a pas mis beaucoup de temps pour faire ce rapport dans les 45 jours.
Et est-ce que vous aviez une idée de ce rapport? L'évaluation a donné quoi par rapport au patrimoine qui restait à Cititrain? Vous avez eu une idée du rapport?
Par rapport au patrimoine, nous avons cette idée en tant que syndicaliste. Par rapport au patrimoine de Cititrain, après l'évaluation, on a évalué le patrimoine de Cititrain à plus ou moins 13 millions de dollars. 13 millions de dollars américains, pas de francs congolais, dollars américains. Donc, sur les 13 millions, il y a une partie qui sera payée pour les dettes, parce que Cititrain avait des dettes envers des créanciers. Cititrain avait aussi une dette sociale envers les travailleurs. Donc, les arriérés accumulés, plus les décomptes finaux qui doivent être payés. Les arriérés accumulés, plus les décomptes finaux représentent 5 500 000 dollars américains.
Donc, à donner aux travailleurs.
Oui, à donner aux
travailleurs. Ils sont au nombre de combien?
Ils sont au nombre de 500, disséminés dans 4 agences, à part Kinshasa, là où se trouvait la direction générale. Cititrain employait les agents à Kisangani. Il y avait au moins une cinquantaine d'agents à Kisangani. Cititrain avait des agents en Bandaka, une trentaine. À Kikwit, il y a une vingtaine des agents à Kikwit. Il y a aussi les agents de Matadi qui c'était au nombre aussi d'une vingtaine. Donc, tout au plus, Cititrain employait plus ou moins 500 travailleurs. À date de ce jour, tous ces gens-là sont à la maison en train d'attendre le décompte final qui viendra on ne sait quand.
Mais il faut encore attendre parce que le rapport n'a été transmis que au mois de mars. Il faut trouver des preneurs, comme vous l'aviez dit, il faut trouver des preneurs pour vendre ce patrimoine-là et rassembler les 5 500 000 pour payer. Ce n'est pas aussi peu d'argent.
Les preneurs, ils sont là. Est-ce que pouvez-vous comprendre que là où vous avez couvert la manifestation...
Mais il faut une procédure aussi pour trouver la personne,
la bonne. La procédure, c'est quoi? Nous attendons que l'État autorise les liquidataires, parce que c'est les liquidataires qui doivent chercher les preneurs, ce n'est pas le gouvernement. On doit léguer tous les pouvoirs au liquidataire qui liquide l'entreprise et lui, il fera rapport, comme on l'a vu. On a liquidé l'OTCZ. La concession, la grande concession de l'OTCZ a été vendue. Et c'est la première concession en Afrique centrale qui pouvait avoir 3000 bus. Même aujourd'hui, si vous passez en Afrique centrale, vous n'aurez pas une concession comme celle-là que les Belges nous ont léguée à l'OTCZ. Aujourd'hui, c'est devenu une boulangerie. On a vendu ça. On a vendu pourquoi ? Parce que l'entreprise était en faillite. On a liquidé, c'est pour payer les travailleurs. On a payé et on a payé d'autres dettes. On a vendu la concession Sotras sur poids lourd. Vous verrez, Socimex a acheté. On a vendu cette concession. On a liquidé l'entreprise, la sous-concession a été vendue, on a payé les travailleurs.
Et c'est ce que vous demandez pour ce titre-là ?
Oui, on a vendu toutes les concessions, même à 14e rue. Là, à côté de la MONUSCO, il y a une concession qui abritait une société éthique qui était là. Cette concession a été vendue. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, on a érigé des bâtiments là-bas. Et c'est ce que nous demandons. C'est simple. Nous avons des preneurs qui sont venus. Et si l'État veut que nous les représentons, on va les représenter. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour nous payer. Des fois, même plus que ce que on a évalué, que l'IMOAF a donné comme prix. Nous pouvons vendre ça à plus que ce que l'IMOAF a donné comme prix.
Mais après tout ce que vous avez fait comme citine, quelle a été la réponse que vous avez reçue?
La réponse est négative. C'est pourquoi vous nous voyez dans vos
articles. Négative, ça veut dire personne. Ils n'ont pas dit qu'ils ont refusé de vous payer, c'est ça?
Il n'y a personne qui répond à nos revendications. Nous avons demandé une audience auprès du ministre des Transports et Voies de Communication.
Il n'est pas là, il
pour
pas
nous
au pays.
Expliquer. Non, avant qu'il parte à prendre ses soins à l'étranger, on a demandé cette audience. On a déposé aussi une audience auprès du Premier ministre qui pouvait nous recevoir. Il ne nous a pas reçu. C'est pourquoi nous réitérons encore cette fois-ci sur le micro des radios Okapi cette audience-là. Si le Premier ministre voudrait quand même nous rencontrer, nous sommes des Congolais, nous sommes en train de vivre, nous avons quelque chose à lui dire en tant que Congolais. Et cet appel aussi, nous allons lancer aussi à notre chef de l'État qui est en train de recevoir les forces vives de la nation. Ce titre aussi, c'est une force. Nous avons 500 travailleurs qui avaient 500 femmes, ça faisait 1000 personnes. Si on prenait que nous sommes Africains, chacun a 6 enfants, nous avions 3000 enfants qui sont en train de souffrir maintenant. Si les 3000 enfants, plus les 1000, ça fait 4000. Si nous sommes Africains, avec nos neveux, avec nos nièces que nous hébergeons à la maison, c'est une France de 2000 personnes qui est en train de souffrir maintenant. C'est pourquoi le chef de l'État qui va nous écouter aussi, s'il peut nous offrir cette opportunité-là de lui rencontrer et de lui parler aussi de Sidi Train. Parce qu'il connaît bien Sidi Train. En 2008, c'est lui qui nous a doté de bus à Chokleiland.
Que vous avez mal géré.
Nous n'avons pas mal géré. Si on avait mal géré, on arrêterait les gestionnaires. Mais je vous dis, de cette audite que l'État a diligenté à Sidi Train, il n'y a aucune audite qui a déprouvé, qui a montré cette mégestion.
Pourquoi on vous a liquidé alors si vous n'avez pas eu mes gestions? Mais comment l'entreprise est allée mourir à petit feu comme ça? On ne voit plus le bus City Train à travers la ville.
Ça, il faut demander aux dirigeants, parce que City Train, c'est une entreprise de l'État. Établissement public à caractère social. City Train faisait le social. City Train ne faisait pas les bénéfices. Donc quand on fait le social, on ne rend pas les bénéfices. Donc l'État doit toujours renouveler l'outil de production parce que le coût du billet lui-même ne représente absolument rien. C'est ce que Transco fait aujourd'hui.
Et on risque d'arriver à la même situation aussi.
Oui, si
ça
l'État
ne fait pas attention.
Si l'État laisse à donner des subventions à Transco, Transco va subir les traces de City Train et demain on va liquider aussi Transco. Parce qu'aujourd'hui Transco, on lui donne du carburant, ce qu'on ne donnait pas à City Train. On subventionne le matériel et les pièces de rechange, ce qu'on ne subventionnait pas à City Train. On subventionne même les salaires.
C'est qu'elles sont parties du mauvais exemple de City Train pour corriger sur Transco, pour qu'on ne revienne pas à la case de départ. Merci beaucoup, monsieur Bernardin. On va boucler par là, mais un petit dernier mot par rapport à ce que vous revendiquez.
Un petit dernier mot, je dirais aux agents des Citizens d'être calmes, de suivre l'évolution. Nous, en tant que délégués syndicaux, nous sommes en train de tout faire pour que leurs droits soient retrouvés. Et nous mettons en garde tout groupe d'individus qui voudront prendre le pouvoir de la délégation syndicale pour parler au nom de la délégation syndicale. Et nous mettons tous ces gens-là en garde. Donc, travailleurs, soyez très intelligents, suivez ce que les délégués vous parlent. Je vous dis que si pas à la fin du mois, le 29, nous serons toujours devant Cititrain pour réclamer encore une fois de plus nos décomptes et nos arriérés. Merci beaucoup.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques infos de la semaine rapidement plus brefs avant de terminer cette émission. En province orientale, l'administrateur du territoire de Ouattia redoute les conséquences fâcheuses tant du point de vue social qu'économique dans son entité. Cette crainte est liée au blocage de véhicules de l'autre côté de la frontière ougandaise. Selon Christophe Ikando, son entité est en passe de connaître une rupture de stock de produits pharmaceutiques et pétroliers et lance un appel au gouvernement pour que la situation soit rapidement décomptée afin d'apaiser les inquiétudes de la population et les entreprises implantées dans sa juridiction. Les pétroliers du Katanga et les membres du gouvernement en séjour à Lubumbashi se sont rencontrés mardi. Ils cherchaient ainsi à harmoniser leurs vues par rapport aux revendications des pétroliers de la province, revendications qui étaient à la base du mouvement de grève observé pendant 3 jours par les opérateurs pétroliers. Et le président des vendeurs de produits pétroliers dans la province du Katanga affirme que des avancées significatives ont été enregistrées lors de ces discussions. Pendant ce temps, au Maniema, les opérateurs économiques demandent à la DGRMA de réduire le coût de la patente à Kasongo. Ils se sont exprimés le même mardi lors du lancement officiel par la DGRMA de l'opération de paiement de la patente. Le porte-parole des opérateurs économiques estime que le prix de la patente pour boutiques et magasins devra être réduit de 25 000 à 10 000 francs congolais et que celle des articles comme les bonbons, les biscuits, les babouches et autres produits vendus à détail devraient baisser de 15 000 à 8 000 francs congolais. Ce taux, affirme le porte-parole des opérateurs économiques, est très élevé par rapport aux recettes réalisées. Et en réaction, le directeur de la Direction générale de recettes du Maniema, Akasongo, souligne que la réduction du coût de la patente ne relève pas de sa compétence. Et ce sera la fin de Panorama économique cette semaine sur votre radio. Merci, chers auditeurs, pour l'attention que vous avez accordée à ces 30 minutes de la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio. Je vous souhaite très bonne fin de semaine et très bonne semaine. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net. Au revoir.